Le journal vous est présenté par Charlotte Coutard.
Bonsoir à tous. Dernier meeting ce soir pour François Fillon et Alain Juppé avant le second tour de la primaire dimanche. Le maire de Bordeaux a rappelé ses différences avec son adversaire. François Fillon, lui, s'en est pris à François Hollande. Les deux candidats à la primaire sont au moins d'accord sur une chose. Il faut, selon eux, augmenter le numerus clausus des médecins pour lutter contre les déserts médicaux. Alors est-ce la solution? Nous poserons la question à notre invitée, Brigitte Dormont, économiste de la santé. Un attentat a été prévu le 1er décembre en région parisienne, annonce du procureur de la République de Paris ce midi. On fait le point dans ce journal. EDF est soupçonné de pratiques anticoncurrentielles. L'autorité de la concurrence a mené des perquisitions cette semaine au sein de l'entreprise. Et puis en Italie, les femmes pourraient être autorisées à devenir diacres. En tout cas, le Vatican se penche sur la question. Il est le grand favori du deuxième tour de la primaire de la droite et du centre, crédité de plus de 60% des voix par les sondages. François Fillon était en meeting ce soir à Paris au parc des expositions de la Porte de Versailles. Rien n'est acquis, a-t-il lancé, entouré de ses anciens adversaires. Mais François Fillon est déjà tourné vers l'après-primaire. Il est en campagne pour la présidentielle et s'en prend à François Hollande.
Il faut un vrai président de la République. La souveraineté française ne peut pas être incarnée par un homme qui navigue à vue dans son propre pays. Au cours de ce quinquennat, François Hollande a plus dégradé la fonction qu'il occupe qu'aucun de ses prédécesseurs. François Hollande, c'est un Paul Deschanel qui tombe du train toutes les semaines depuis 5 ans et qui remonte imperturbable en souriant dans son petit wagon. Mes amis, on me dit que le détachement est une des clés de la sérénité. Jusqu'en mars prochain, je vous propose que nous cultivions notre détachement. Détachons-nous d'un président si faible qu'on peut engager une procédure de destitution contre lui sans même l'entendre protester. Détachons-nous des leçons d'une gauche moribonde, où beaucoup ne tiennent plus debout qu'en s'accrochant au poignard planté dans le dos du voisin.
Alain Juppé tente de son côté de faire mentir les sondages, de créer la surprise comme François Fillon au premier tour. Le maire de Bordeaux était en meeting à Nancy. Il a rappelé les grandes différences entre le programme de François Fillon et le sien.
Mais au-delà de ces choix techniques, de ces choix programmatiques, entre guillemets, on voit bien qu'aujourd'hui se dessinent deux visions différentes de la réforme. L'une qui est qualifiée parfois, et surtout qu'on n'y voit pas une attaque personnelle, d'hyper-libérale, qui risque, par sa brutalité, de disloquer le corps social. Et puis, ma méthode, que je qualifierais de libéralisme humaniste.
Le second tour de la primaire de la droite et du centre, c'est dimanche. Jeter les bases d'un rassemblement de la gauche, c'est l'objectif de Martine Aubry qui organise demain le Carrefour des Gauches. Martine Aubry, Christiane Taubira, Anne Hidalgo en tête d'affiche, mais aussi des frondeurs, des écologistes et des communistes. La réunion est organisée à Bondy, en Seine-Saint-Denis. Une attaque de grande envergure a été évitée. Ce sont les mots de François Hollande après l'arrestation de 5 hommes le week-end dernier à Strasbourg et Marseille. Ils ont été présentés à la justice en vue d'une mise en examen. François Molins, le procureur de la République de Paris, a fait le point sur l'enquête ce midi. Selon lui, un attentat était prévu le 1er décembre, téléguidé depuis la Syrie ou l'Irak. François Molins.
Il est en outre apparu que le commando de Strasbourg, mais aussi l'individu interpellé à Marseille, disposer d'instructions communes pour se procurer des armes, instructions communiquées par un donneur d'ordre depuis la zone irako-syrienne par le biais d'applications cryptées prisées, on le sait, des terroristes. L'exploitation d'une clé USB qui a été découverte au domicile de Yacine B en témoigne. Il est fait état, en effet, dans cette clé USB, dans 2 fichiers distincts. D'une part, de la possibilité de la livraison d'une somme d'argent, d'autre part de la communication de coordonnées GPS ainsi que d'explications détaillées pour se procurer des armes et munitions. Par ailleurs, Hicham E, donc l'individu interpellé à Marseille au moment de son interpellation, a été trouvé porteur d'une somme de 4 281 euros, somme selon toute vraisemblance destinée à l'acquisition d'armes, dont il ne disposait toujours pas, alors qu'il venait d'arriver sur la commune de Marseille, et ce alors qu'il avait, à l'instar de l'équipe strasbourgeoise, lui aussi, préalablement reçu des instructions précises d'un donneur d'ordre depuis la zone irako-syrienne pour se procurer lui aussi des armes selon les mêmes modalités que celles fournies aux Strasbourgeois.
Le procureur de la République de Paris, François Molins. Le verdict est tombé à la cour d'assises du Puy-de-Dôme. La mère de la petite Fiona a été condamnée à 5 ans d'emprisonnement et son ex-compagnon, Berkane Makhlouf, à 20 ans de réclusion criminelle assortie d'une peine de sûreté des deux tiers. Ils étaient poursuivis pour la mort de la petite fille de 5 ans en 2013. Une semaine difficile pour EDF. L'entreprise a d'abord été mise en cause par Greenpeace. L'organisation de défense de l'environnement accuse EDF de délit boursier pour avoir présenté un bilan inexact de ses finances. Mais ce n'est pas tout. L'autorité de la concurrence a mené une perquisition cette semaine chez le géant français de l'électricité. EDF est soupçonné de pratiques anticoncurrentielles, Ilan Matka.
Les perquisitions ont été effectuées mardi dernier sur plusieurs sites situés en région parisienne. Des saisies ont été opérées. L'information est partie du quotidien Les Échos. Elle a été confirmée depuis par EDF et par l'autorité de la concurrence. Aucun des deux n'a donné d'informations précises. Les motifs de cette requête restent donc pour le moment inconnus. Ce que l'on sait, c'est qu'il s'agit d'une enquête sur des pratiques présumées d'abus de position dominante. Coïncidence ou pas, une entreprise qui s'appelle Plume Énergie a déposé plainte justement contre le géant français de l'électricité pour ce motif. C'était le 15 octobre dernier. Vincent Maillard, président et cofondateur de Plume, affirme qu'EDF lui bloque l'accès à des données. Il n'aurait ainsi pas moyen d'avoir les infos consommation des clients qui ont quitté EDF pour le rejoindre. Il reconnaît que ce n'est pas une obligation légale, mais il estime que cela pose un vrai problème sur le plan concurrentiel. EDF, que nous avons également contacté, n'a pas souhaité réagir. Les porte-parole du géant français se bornent à dire que l'entreprise va collaborer avec les autorités de la concurrence afin de lui fournir l'ensemble de la documentation demandée.
Des précisions d'Ilan Malka. C'est la première préoccupation des Français selon un sondage réalisé par l'Institut BVA, la santé. Hier, la ministre de la Santé Marisol Touraine a annoncé une augmentation du numerus clausus des médecins qui détermine le nombre d'étudiants accédant à la deuxième année d'études de médecine. 478 places supplémentaires dans 22 facultés. Il y a un an, la ministre avait déjà accordé 131 places supplémentaires dans 10 régions ciblées. L'objectif est de lutter contre la pénurie de médecins et les déserts médicaux. Pour en parler, nous sommes avec Brigitte Dormont, économiste de la santé et professeure d'économie à l'Université Paris-Dauphine. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, augmenter le numerus clausus, est-ce la solution pour lutter contre les déserts médicaux?
Alors, pas vraiment. Et il faut dire que c'est une solution qui est avancée régulièrement. Le numerus clausus, ça régule le nombre total de médecins. Ici, il est question de le régionaliser. La question de l'accès aux soins, c'est que les médecins sont mal répartis, mais pas qu'on a pas assez de médecins. On ne manque pas de médecins en France. On a quand même plus de médecins que dans beaucoup d'autres pays à proportion des citoyens, mais ils sont très mal répartis en France. Donc la question est plutôt la répartition des médecins plutôt que le nombre total de médecins. Alors augmenter le nombre de médecins comme c'est proposé là, c'est toujours une façon de botter en touche dans le débat sur la localisation géographique des médecins. Et là, il y a un débat qui est très difficile à faire avancer parce que les médecins veulent conserver leur liberté d'installation. Et en face de ça, il y a la sécurité sociale qui fait cotiser tout le monde pour avoir un égal accès aux soins. Et cet égal accès aux soins n'est pas garanti à cause de l'inégale répartition géographique des médecins.
Est-ce que le débat, c'est d'obliger les jeunes médecins notamment à s'installer dans les zones les moins bien dotées en généraliste? Hier, l'Assemblée nationale a rejeté une nouvelle fois une proposition de loi et le texte proposer justement d'obliger les médecins libéraux à s'installer au moins 3 ans dans des zones sous-dotées. Est-ce qu'il faut les obliger, ces médecins?
Alors ça, c'est pareil. C'est une solution qu'on voit réapparaître régulièrement, qui n'est pas une bonne solution. C'est une solution qui est mise en échec politiquement toujours. Et c'est normal, en fait, parce que il y a un vrai problème de génération. On ne voit pas pourquoi ce serait aux jeunes médecins de s'ajuster pour corriger les défauts de répartition hérités d'années et d'années où les médecins s'installent où ils veulent. Donc, je pense que cette inégalité de génération, faire trinquer les jeunes, Ça fait qu'en fait, les internes qui font marcher les hôpitaux se révoltent, font grève, ça paralyse l'hôpital public et la chose est mise en échec. On a eu ça plusieurs fois, hein. Plusieurs fois ça s'est passé et au final, on dit on va augmenter le numerus clausus.
Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut rendre ces zones plus attractives ?
Alors ça, c'est aussi quelque chose qui est en cours depuis longtemps. On additionne et on multiplie les primes d'installation. Moi, je pense qu'il faut répartir l'effort entre les différents médecins. La question des zones désertes, c'est pas vraiment le fait que des choses soient très loin géographiquement des grands pôles urbains. C'est souvent les zones périurbaines. Donc je pense qu'on peut imaginer des solutions plus souples et qui pourraient concerner tous les médecins. Chaque médecin devrait assumer une demi-journée tous les 15 jours dans un cabinet qui serait une maison de santé. Et je pense qu'il est possible d'imaginer quelque chose qui ne fasse pas tout peser sur les jeunes médecins qui s'installent.
Vous disiez tout à l'heure on a assez de médecins, mais selon l'ordre des médecins, entre 2007 et 2025, la France aura perdu un quart de ses médecins généralistes. C'est quand même plutôt inquiétant.
Alors, il y a une pyramide des âges des médecins qui est héritée du passé du numerus clausus, parce que le numerus clausus, ça a évolué de manière très heurtée. Au départ, il n'y en avait pas. Après, il était très haut, autour de 8000, et on est en train d'atteindre ces niveaux-là, en fait. Après, il a décru énormément. Et il recroît depuis plusieurs années. Et donc, ce qu'on a, en fait, c'est une pyramide des âges complètement déséquilibrée avec des médecins âgés en nombre très nombreux qui expliquent justement cette forte baisse maintenant avec les départs à la retraite. Mais on a de la marge, hein. On a eu beaucoup de médecins en France. Donc, il faut peut-être augmenter le nombre de médecins, mais je pense que c'est... Mais on ne va pas faire face à une pénurie.
Les deux finalistes de la primaire de la droite et du centre, Alain Juppé et François Fillon, sont d'accord sur ce point. Eux, ils veulent augmenter le nombre, le numerus clausus pour les médecins. C'est leur avis. La problématique de la santé, est-ce qu'elle est assez au cœur de la campagne présidentielle en ce moment ?
Alors en ce moment, à la limite, je dirais qu'on en parle un peu plus que lors des autres campagnes présidentielles. Il faut savoir que c'est un sujet qui, en général, bannit les discussions parce qu'il n'y a pratiquement que des coups à prendre. C'est très difficile de prendre position pour un candidat sur des questions de santé parce que soit on dit qu'on fera tout et que tout se passera bien et qu'il n'y aura aucun problème de budget, qu'on fera tout pour faire plaisir à tout le monde, soit effectivement on ne dit que des choses un peu désagréables à entendre qui sont rationalisation des dépenses, essayer de faire en sorte que les cotisations de sécurité sociale n'explosent pas et donc ou effectivement penser à des choses un peu coercitives pour que l'offre de soins corresponde et réponde aux besoins alors que l'offre de soins de ville en France est à majorité libérale. Donc ce sont des sujets très difficiles et si on n'a pas trop de langue de bois, on est forcément impopulaire auprès d'une des franges de la société française. Et donc c'est un sujet qui est en général évité. Donc là, ça l'est un petit peu moins, je dirais, puisqu'il y a sur la table des propositions effectivement difficiles à entendre des candidats. Je trouve que le sujet est moins banni que dans d'autres campagnes.
Merci beaucoup Brigitte Dormont, économiste de la santé et professeure d'économie à l'Université Paris-Dauphine, d'avoir été l'invitée de France Culture ce soir. Y aura-t-il prochainement des femmes prêtres ? Non, répond très clairement le pape François, mais il se montre plus ouvert à la question des femmes diacres. À la surprise générale, le pape François avait décidé en mai dernier d'instaurer une commission d'études. Elle a démarré ses travaux aujourd'hui au Vatican, Mathilde Imberti.
Le pape argentin déclare régulièrement vouloir accorder plus de place aux femmes dans l'Église. Le fera-t-il à travers le diaconat ? Il ne lui est pas possible sur ce sujet-là d'invoquer la prise de position de Jean-Paul II comme il le fait sur la prêtrise. Car si Jean-Paul II excluait formellement la possibilité pour les femmes d'être ordonnées prêtres, il ne faisait pas mention du diaconat. Et l'historienne Lucetta Scarafi, auteur de l'ouvrage au dernier rang, Les femmes et l'Église, évoque une sensibilité particulière du pape François sur la question.
Il y a beaucoup de femmes au monde qui déjà sont en train de recouvrir le rôle de diacre lorsqu'il y a très peu de prêtres, mais ils ne sont pas reconnus. Et le pape connaît très bien la situation, car il y en a beaucoup dans l'Amérique latine. Mais je pense qu'il y a beaucoup de résistance dans l'Église, car on voit dans le diaconat le dernier pas pour arriver au sacerdoce des femmes.
Les diaconesses existaient au premier temps de l'Église. La commission composée de 6 hommes et 6 femmes, qui a commencé à travailler hier, étudiera cette parenthèse historique et remettra ses conclusions au pape, sans aucune certitude que ses travaux débouchent sur une ouverture du diaconat aux femmes.
Précision à Rome de Mathilde Imberti. La météo, demain le temps sera globalement gris avec des éclaircies du massif central aux Alpes, quelques pluies au nord demain matin. Les températures seront comprises entre 2 et 8 degrés le matin, quelques rares gelées sur l'extrême nord du pays et au pied des Pyrénées. L'après-midi, il fera de 8 à 18 degrés.